things that we're striving to do in life, sometimes we get caught up in the activities of the world and we tend to neglect our most honored gift. Talking about the gift of life, all of the children throughout the world. And you know, Almighty God has charged us to be responsible for all of the children. We'd like to appeal to everyone. Let us all come together. Take a stand. Save ourselves. Save the children. And save the world. Calling out to you, everyone. Don't you know the time has come?
Save the children.
To save the children.
Save the children.
mírame a mí. Ve lo que traigo, no vas a resistir. Ve mi foto que te encanta. No me dejes, no dejes de mirar. Mira lo fina y elegante que soy. Ya nadie sabe si vengo o si voy. Mira esta vida que llegué a tener. Ahora sí todos me van a querer. Todo lo tiene, eso dicen de mí. Que si lo quiero voy a tener que mentir. Mira este brillo, no hay ninguno igual. No jamás, pero ve mi foto que te va a encantar. Un segundo no dejes de mirar.
No, no les diré la verdad. No, no les diré la verdad. No, no les diré la verdad. No, no les diré.
Toda mi vida te la voy a contar. Y solo vas a quererme alcanzar. Creo que no, no lo vas a lograr. Nunca nadie me podrá superar. Mira lo fina y elegante que soy. Ya nadie sabe si vengo o si voy. Ve mi foto que te va a encantar. Un segundo no dejes de mirar.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avec moi dans mon salon, Eve, que je rencontre à travers cette émission Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie de donner la parole à des écrivains, des voyageurs, des réalisateurs, tous ceux qui sont en lien avec la découverte de soi et la découverte du monde. Donc je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps sur un festival, on m'a dit tiens regarde, parle à Eve, c'est une voyageuse. Donc on a juste échangé quelques mots ensemble, mais il y a quand même des mots qui ont émergé comme ça. Il y a eu le mot Népal, il y a eu le mot Inde, il y a eu le mot voyage forcément. Donc je t'ai proposé de venir faire cette rencontre radiophonique ici dans mon salon pour découvrir un petit peu qui tu es. Donc si j'ai bien compris, tu as commencé assez jeune à voyager, donc on va revenir à cette époque-là de ta vie et je te demandais mais qu'est-ce qui s'est passé en toi, pourquoi est-ce que tu as eu cette envie d'ailleurs, comment est-ce que tu l'expliques, est-ce que c'est lié à un itinéraire familial, un itinéraire personnel, voilà, comment t'es venue cette idée de prendre la route.
Bonjour à tous et merci à toi Alexandre pour cette invitation. Pour les débuts du voyage, alors familial, pas du tout, il n'y a personne ou presque qui a fait de grands voyages dans ma famille. Ça s'est fait de manière assez naturelle et spontanée. Je ne savais pas du tout quoi faire comme étude. Oui, j'avais deux, trois trucs en tête qui m'intéressaient, dont la psychologie en fait. Et j'ai commencé des études à Strasbourg finalement dans l'hôtellerie-restauration, donc rien à voir. Et je me suis très vite rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi. J'avais juste besoin de faire une pause, de prendre le temps, de ralentir. Et je m'étais toujours dit, un peu comme un rêve dans mes années de lycée, que vraiment au pire, si je ne savais pas quoi faire comme étude, je prendrais une année sabbatique. J'étais extrêmement timide à l'époque, je parlais très mal anglais, donc ça me paraissait vraiment plus un rêve qu'une réalité, et puis finalement ça s'est quand même mis en place. J'ai arrêté au bout de, je crois, 2-3 mois les études, pensant continuer à bosser puis reprendre des études l'année suivante. Et finalement, je suis partie en Suède, du coup c'était le premier voyage où j'ai fait du woofing, donc du bénévolat. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais 18 ans, j'avais pas vraiment d'économie de côté, donc c'était une manière aussi de partir avec un budget moindre et surtout d'aller à la rencontre des personnes et pas juste partir pour des vacances, mais d'avoir une expérience plus locale, en fait.
Alors le woofing, on en parle régulièrement dans cette émission parce que c'est quelque chose qui permet déjà un échange de connaissances, de compétences. On va se retrouver souvent dans une ferme bio, hein, organic farm. Et donc voilà le concept, hein, je le rappelle, c'est donc on a un bouquin, on devient membre du Woof France ou du Woof International. Et tu as une liste d'adresses de fermes qui proposent à des jeunes ou moins jeunes de venir travailler. Entre 4, 6, 8, ça dépend des demandes et des besoins, en échange du gîte et du couvert. Donc c'est un excellent moyen effectivement de pouvoir s'immerger dans un pays, hein, prendre le temps de rencontrer la culture, vivre avec les locaux et des fois apprendre la langue. Donc toi tu as fait le choix de partir en Suède. Alors pourquoi la Suède pour un premier voyage ?
Pareil, c'était assez spontané aussi. Alors je vais tout de suite rentrer dans le plus vif du sujet, mais en fait le pays qui me faisait rêver, qui me fait encore rêver, qui m'attirait le plus au monde, c'était l'Inde, depuis que j'ai 11 ou 12 ans. Et c'est vrai que comme j'ai commencé à voyager à 18 ans, seule et en tant que femme, c'est vrai qu'à 18 ans, je me sentais pas, n'ayant pas ou très peu voyagé, je me sentais pas de partir en Inde. Donc je me suis dit, on va faire du soft quand même. La Scandinavie, c'est assez safe, la Suède aussi. C'était une destination à la fois proche et lointaine, puisque je suis allée quand même jusqu'en Laponie. Mais voilà, il y avait le côté sécurité de me dire, si ça se passe pas comme j'ai envie, je peux vite rentrer.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais se pose aussi toujours cette question. Donc là, quand on est jeune, le voyage est un super outil, un super moyen d'apprendre sur soi, apprendre à se connaître, à se découvrir dans nos propres capacités et potentiels, parce qu'on sort vraiment de notre zone de confort et donc on a tout à recréer. Et je trouve que c'est très formateur de pouvoir vivre sur la route et voir comment est-ce qu'on arrive à s'acculturer des différents pays, des différences culturelles, sociales, etc. Mais se pose aussi la question, c'est ensuite vers quoi faire, vers quoi aller, hein, quand on est en construction entre 25 et 30 ans, entre 20 et 30 ans, à un moment donné, il y a toujours cette question qui est là en background, en arrière-plan, et voilà, comment est-ce que toi tu réponds à cette question et qu'est-ce qui t'a amené après en Inde ? Enfin, je sais pas, revends peut-être un petit peu dans la chronologie.
J'étais en Asie du Sud-Est, je suis retournée en Australie quelques semaines et puis je suis rentrée un peu du jour au lendemain en France. Et ça a été assez dur, enfin très dur même, puisque du coup c'était quasiment 2 ans où j'avais pas vu ma famille du tout. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'autres voyageurs ressentent, mais c'est toujours le fait de partir, de vivre beaucoup de choses et de revenir là où tu es né, où tu as passé beaucoup de temps. Et en fait, le moment où tu reviens, tu as l'impression que rien n'a changé, mais toi, tu as vu tellement de choses, tu as expérimenté tellement de choses, tu as cette ouverture et une tendance à peut-être la refermeture, si je peux dire, au moment où tu rentres un peu dans ton train-train, dans tes habitudes. Et peut-être, moi je retrouvais la maison où j'ai grandi, ma chambre où j'étais ado, et du coup sensation un peu d'enfermement presque, d'être allé si loin et en fait de revenir à d'être tiré en arrière, alors que voilà, mes parents ont toujours été très soutenants vis-à-vis de mon parcours, m'ont toujours beaucoup encouragée et accueillie quand je rentrais à ces moments-là. C'est vrai que tu as une sorte de décalage qui est pas évident. Et puis aussi le fait de, c'était rentrer aussi, refaire de l'argent puisqu'il en faut pour voyager. Et du coup, c'était à cette époque-là reprendre un job alimentaire qui était un job alimentaire. Et du coup, je me dis, punaise, je suis allée tellement loin, je touche des choses vraiment qui m'intéressent, et en même temps je reviens, je vais dans un job où je me retrouve pas, je me sens en décalage, mais en même temps je suis pas encore prête à faire quelque chose par moi-même, peut-être être à mon compte ou voilà, développer certaines choses. Et voilà un peu ces moments de transition où, comme tu dis, tu te cherches.
Je pense que beaucoup de voyageurs se reconnaîtront dans ces propos, hein, cette notion de prendre le large, de vivre quelque chose d'hyper intense, de multiplier les rencontres et les expériences, de revenir chez soi et de se rendre compte que rien ne bouge, rien ne bouge. Nous, on a énormément cheminé à travers ces expériences et c'est difficile de se sentir compris, hein, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience et tu peux pas raconter 6 mois de voyage, 1 an de voyage et quand on te dit « alors, c'était comment l'Australie ?» Compliqué de répondre à une question comme ça. Je parle du principe que quand on part, on s'adapte. Donc c'est aussi à nous d'arriver à s'adapter et à garder, hein, tout ce qu'on a pu vivre, toute cette richesse, à la faire grandir en nous. Mais c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, on se fait rattraper par un système, par une pression sociale, une pression familiale. Et souvent, la question qu'on pose, c'est bon, et quand est-ce que tu arrêtes de bouger? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir la pression familiale, en tout cas de mes parents, du tout, bien au contraire. Donc ça, c'est une chance énorme et j'en suis extrêmement reconnaissante. Après, au niveau de la famille plus large ou même de la société indirectement, c'est vrai que bah, quand tu as 25, 26 ou un peu moins, un peu plus, qu'on dit bon ben bah, voilà, les études, tu fais quoi ou quand est-ce que tu penses te poser? J'ai jamais été dans cette optique. Quand je suis partie en Suède, à la base c'était une année sabbatique en me disant ben, l'année suivante, l'année prochaine je reprendrai un parcours d'études. Et finalement c'est vrai que plus je voyageais, je partais avec un esprit plus ou moins fermé, ou ce qu'il était en tout cas, et au fur et à mesure ça s'ouvre de plus en plus. C'est presque un point de non-retour, je pense, peut-être, où en fait tu dis mais je peux pas retourner dans des études où ce cadre et l'école de la vie, c'est la plus belle. Après, effectivement, la question d'adaptation, de ce que tu disais, c'est ouais, comment garder le regard que tu as en voyage quand tu rentres chez toi. Et je pense que c'est la chose que j'ai le plus travaillé ces dernières années.
Alors comment on fait pour garder ce regard émerveillé sur le monde quand on revient chez soi où tout est quelque part presque un peu banal?
C'est intérieur. Et j'ai relu encore, je crois, cette semaine une citation que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup parlé. On dit toujours l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est vrai que quand je rentrais pendant des années, jusqu'il y a encore 5 ans, je vivais que pour repartir. Donc à chaque fois que j'étais ici, je mettais ma vie en pause en quelque sorte. Je faisais rien de trop intéressant, je m'autorisais pas ou peu de sorties pour vraiment économiser un maximum d'argent. Et en fait, l'herbe est verte là où on l'arrose, tout simplement. Ben, ça a été par exemple de sortir dans ma ville avec mon appareil photo, comme je pouvais le faire en voyage. De trouver dans ma ville les cafés sympas comme je pouvais le faire en voyage, de sourire à des inconnus, de parler au mec du café, de créer des liens, des relations comme je pouvais le faire en voyage, et de casser un peu tous ces a priori de se dire bah en Inde ou ailleurs c'est comme ça, mais en France de toute façon, vraiment de venir casser ces a priori et de se rendre compte bêtement peut-être, mais que beaucoup de choses dépendent aussi de ta vision et de l'énergie que tu vas envoyer en fait aux gens. Et que plus t'es souriant et dans la bienveillance, plus c'est ce que tu vas attirer aussi. Alors voilà, il y a toujours des interactions qui marchent peut-être moins que d'autres, mais dans la globalité, j'ai vraiment observé ça. En fait, je me dis, il y a des gens extraordinaires partout.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.
Donc Eve, après ton long voyage entre l'Australie, l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande, tu rentres en France, et après ?
Pareil, j'ai rebossé quelques mois de job alimentaire et je me suis après enfin lancée pour mon grand rêve. C'était début 2014 en Inde, toujours seule, et je suis restée 9 mois en Inde, dont un passage au Népal du coup pour refaire le visa.
Et là, quand tu pars en Inde, donc tu avais ce rêve d'ado, mais est-ce que tu pars avec, je sais pas, un but qui est peut-être celui de faire une école de yoga, une école de massage, l'Ayurveda, ou c'était vraiment prendre la route avec ton sac sur le dos et te laisser complètement guider par les synchronicités, par la magie des rencontres?
Plus la spontanéité du voyage. À ce moment-là, j'avais pas encore d'ambition ou trop de pensées par rapport au yoga, même si c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, mais j'avais pas spécialement d'idée de formation ou autre. C'était vraiment aller à la rencontre de l'Inde, aller à la rencontre de ce pays qui me fascine depuis mes 11 ou 12 ans. Et c'était le plus grand rêve de ma vie, et c'est toujours à chaque fois que j'y retourne, c'est un rêve qui se réalise encore et encore et encore. Et j'ai pas eu le coup de foudre direct. Et ouais, pendant des années, j'ai cultivé un peu ce mythe, cette fascination, ce rêve de l'Inde. Et puis, t'arrives et c'est quand même un des pays les plus chaotiques, violents au niveau des contrastes. Toute la beauté du monde et en même temps toute la puanteur, toute l'horreur et les meilleures odeurs qui côtoient les pires. Et je pense que c'est ça aussi qui me fascine, c'est tous ces opposés, toutes ces contradictions qui reflètent aussi les contradictions qu'on a à l'intérieur et en Occident aussi, mais qui sont plus cachées, je dirais.
Mais tu peux nous parler de cette Inde que tu idéalisais, quelle était l'image que tu avais de l'Inde qui te faisait tant rêver, et puis effectivement ce qui t'y retrouvait, c'est le côté très chaotique, bordélique. Enfin, l'Inde, on le dit souvent, soit on l'adore, soit on la déteste, et même dans une même journée, on peut se sentir avec des grands moments de grâce à se dire waouh, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre, et l'heure d'après se dire mais j'en peux plus quoi, là il y a trop de bruit, trop d'odeur, je me sauve. Donc toi, quelle était cette image? Comment tu l'idéalisais et qu'est-ce que tu y as retrouvé?
Je pense que c'est venu progressivement parce que du coup, pour le coup, encore une fois, dans ma famille, il n'y a personne de proche, en tout cas, qui a fait de grands voyages ou qui a été en Inde. Je crois que c'est par... j'ai dû voir un film Bollywood à 11 ou 12 ans qui a planté ou semé un premier intérêt au niveau de la musique. J'ai dû manger aussi des samosas à cette époque-là, tu vois, par la gastronomie aussi, les épices, les couleurs, la musique après, les films. Et j'ai toujours adoré toutes les émissions de voyage. Donc dès qu'il y avait un documentaire à la télé sur l'Inde, j'étais scotchée devant. Et comme ça, j'avais des noms d'endroits, Darjeeling, Dharamsala, le Rajasthan... où tu ne vois que des paillettes, entre guillemets, enfin des couleurs flashy et des épices et des odeurs. Et l'Inde un peu plus calme et plus aseptisée que tu peux voir dans les films.
Et donc tu pars avec ton sac à dos, jeune fille, seule en Inde. Et on disait que voyager seul, on n'est jamais vraiment seul. C'est vrai qu'en Inde, c'est un peu extrême.
Ouais, là-bas, même quand tu veux être seule, je crois que t'as toujours un enfant, un vieillard, un mendiant ou quelqu'un qui va venir te parler par curiosité ou te demander quelque chose. Donc c'est vrai que la notion d'espace privé, ils ne connaissent pas trop. Après, quand tu vois le nombre de personnes dans la rue, c'est sûr que c'est hyper surpeuplé. Donc c'est vrai que l'espace personnel, même passer du temps seul, c'est quelque chose qui est pas ou peu commun en Inde.
Qu'est-ce que tu y fais pendant 9 mois ?
Donc ça, c'était mon premier voyage en Inde. Il y en a eu beaucoup, beaucoup par la suite. Et du coup, j'ai pas mal voyagé. Au final, par rapport à la grandeur du pays, je crois que j'ai toujours pas vu grand-chose. Mais je me suis quand même beaucoup déplacée. J'ai fait de la rando, j'ai fait du yoga, mais du yoga vraiment pour moi. J'ai fait pour le coup une première formation de massage ayurvédique, mais sans avoir forcément une idée derrière d'en faire quelque chose de professionnel. C'était plus pour vivre l'expérience. Et j'ai toujours aimé recevoir et donner des massages de manière spontanée et intuitive. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi une première expérience de méditation vipassana. Donc silence pendant 10 jours. Mais voilà, après 9 mois, c'est énorme. J'ai beaucoup voyagé, fait de la rando, méditation, yoga. Et il y a eu aussi une période où, je le disais tout à l'heure, pour le coup, ça n'a pas été le coup de foudre immédiat quand je suis arrivée. Beaucoup de contrastes, beaucoup de, comme tu le disais, cette ces allers-retours entre « punaise, j'adore » et l'instant d'après « qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je me casserai pas ?» Et je me suis fait voler toutes mes affaires importantes, donc mon passeport, ma carte bleue, mon appareil photo, tout ça. Donc ça m'a mis un coup quand même au moral, et après ça, j'ai été très malade. Et là, j'étais un peu sur la sellette à me dire là... comment je fais? Déjà, je voyage, j'ai plus de carte bleue pour voyager, c'était compliqué. Je fonctionnais avec Western Union pour que mes parents m'envoient de l'argent de mon compte. C'était un bordel. Mais ça s'est fait. Ma carte que mes parents m'ont envoyée, finalement, n'est jamais arrivée. Donc, j'ai continué à voyager des mois avec mes parents qui me faisaient des transferts de mon compte. Et finalement, il y a eu un peu un cap. Et après, j'ai atterri dans les montagnes vers Dharamsala. Et comme c'est un endroit qui est plus calme, plus vert, ça m'a permis vraiment de me poser. Je suis restée plusieurs mois, deux, trois mois en fait dans le même village, et là j'ai un peu plus respiré, puis intégrer tout ce qui s'était passé avant, et prendre le temps aussi juste en fait d'être, de faire du yoga, d'avoir un peu plus une routine, et en même temps d'avoir le luxe du temps et de pas regarder l'heure. Et de pas prévoir aussi, encore une fois, me laisser porter par les rencontres et mes envies spontanées.
Je reviens juste sur la partie vol. Tu t'es fait voler comment ?
Alors, j'ai eu de la chance. Hein, c'était dans le train. C'est quelqu'un qui m'a volé. C'était une petite sacoche. Tu sais, quand t'es en mode voyageur, j'avais une petite sacoche où j'avais bien regroupé tous les trucs importants. Et du coup, ils ont mis la main là-dessus et voilà, donc ça s'est fait sans violence physique, ni choc, ni quoi que ce soit. Donc ouais, j'ai pu assez vite relativiser en me disant que c'était que du matériel et qu'il n'y avait pas mort d'homme.
Donc à Dharamsala, c'est vrai qu'on est dans les montagnes. C'est connu pour être aussi l'endroit où vit le Dalai Lama et son gouvernement tibétain en exil, à Mak Leo Ganj, pas trop loin. C'est vrai que tu parles aussi de ce luxe d'avoir le temps. C'est vrai que le voyage permet ça aussi, de faire un pas de côté par rapport au bruit du monde, et puis vraiment s'en extraire pour prendre le temps de vivre simplement.
Ouais, je crois que je le dis souvent maintenant dans mes cours de yoga ou dans mes relaxations, que je pense vraiment que le temps est un des plus grands luxes de notre époque. Je m'auto-corrige souvent aussi quand je dis prendre le temps. Je dis les mots ont tellement d'importance et j'essaye de me le rappeler, mais en fait de dire se donner le temps plutôt que de le prendre. Parce que quand tu dis le prendre, c'est presque, t'as presque l'impression de le voler, alors que c'est quelque chose auquel on a droit, mais on se l'autorise pas. Mais c'est vrai que c'est une chose qui a été extrêmement difficile du coup quand je suis revenue il y a 5